Bonjour Claire.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du mardi 27 septembre 2022. Voici les titres d'actualité. Je vais d'abord commencer avec les veillées Eleison, donc vous savez, qui ont lieu à la basilique d'Argenteuil en région parisienne. Les veillées Eleison accueillent toute personne oppressée intérieurement et bloquée dans sa vie. Je vous lirai un article paru dans Prier Magazine numéro 445. À l'issue de cet article, j'enchaînerai avec un autre article de discernement sur ce qu'est véritablement la prière de délivrance et dans quelles circonstances on peut la demander et la vivre. En portrait, aujourd'hui, je vais vous présenter Miroslav Marinovic, donc ukrainien, qui a rencontré Dieu dans une prison du KGB en 1977. Comment la captivité lui a permis de fortifier sa foi, je vous en dirai plus dans quelques instants. Culture chrétienne, deux livres. Le premier, aux éditions MAM, de Bérangère de Charentenay et Mathilde de Robien, membres du cabinet Raphaël, intitulé « Se pardonner, chemin de réconciliation pour les couples », je vous lirai quelques extraits. Et pour terminer, je vous présenterai un petit extrait aussi de « La fin de vie apaisée » du docteur Alix Debonnière, paru aux éditions Teki. Le docteur Alix Debonnière sera sur les ondes de Radio Maria le 29 novembre à 9h15, en direct du studio de Paris. Nous commençons cette revue de presse avec les veillées Eleison. Alors peut-être que vous avez eu l'occasion d'y participer, en avez-vous entendu parler, peut-être n'avez-vous jamais osé y aller. Donc sachez que lors des veillées Eleison, donc dans la basilique d'Argenteuil, les fidèles vénèrent la sainte tunique et prient pour la délivrance de ceux qui ressentent une oppression intérieure et de nombreux blocages. Dans la nef de la basilique d'Argenteuil, quelques 250 personnes écoutent un prêtre qui médite sur les textes bibliques. L'ambiance est recueillie. Les fidèles qui continuent à arriver sont accueillis par des volontaires en veste rouge griffée d'un logo blanc. Dans le transept nord, des prêtres se relaient derrière la chorale pour les personnes souhaitant recevoir le sacrement de réconciliation. Là aussi se trouve un bénévole, reconnaissable à sa tenue, prêt à se laisser interpeller par ceux qui, ne voulant ou ne pouvant recevoir l'absolution sacramentelle, préfèrent s'entretenir avec un laïc. Les volontaires se tiennent à la disposition de ceux qui veulent parler, et certains ont pour mission de repérer et d'accueillir les personnes qui auraient besoin d'être accompagnées. Les échanges visent à faciliter une rencontre de chacun avec le Christ, détaille Bertrand Schaeffer, 56 ans, engagé avec son épouse dans l'organisation. Si l'écoute est tant mise en valeur ce soir, c'est parce que cette veillée est notamment destinée aux personnes vivant une oppression qui les empêche de vivre. Une proposition qui rejoint l'intuition, partagée par une partie croissante de l'Église de France, d'un besoin de prière de délivrance. Guy-Emmanuel Cariot, recteur de la basilique, est aussi l'exorciste du diocèse de Pontoise depuis 2015. Il constate, comme d'autres, les liens spirituels que contractent des personnes. Par exemple, en allant consulter des sorciers, des mages, des magnétiseurs, en faisant du spiritisme ou en ayant participé à des rituels sataniques. L'accablement dont souffrent ces personnes, auxquelles peut s'ajouter une dimension psychopathologique, les conduit parfois à exprimer de diverses manières leurs tourments. Par exemple, en vociférant ou en tenant des propos étranges. Bertrand Schaeffer nous dit toujours « On peut avoir à gérer quelques débordements, mais tout se passe généralement calmement. » En fait, ces veillées sont à la fois intenses et très calmes. La sobriété, c'est justement ce que visait Guy-Emmanuel Cariot. Jusque-là, ce type de prière pour les âmes tourmentées était souvent proposé sous une forme charismatique. Ce n'est pas le cas dans nos veillées, dont la liturgie est assez classique et conforme aux orientations du livret « Protection, délivrance, guérison » du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle. Il ne se passe d'ailleurs rien de vraiment impressionnant. Au contraire, les veillées se déroulent de manière plutôt silencieuse et apaisée. Ici, les soirées reposent sur deux éléments essentiels. D'abord, la foi en l'action réelle et efficace de Dieu, qui se traduit par des prières spécifiques. Ensuite, la présence d'une des reliques les plus vénérées de la chrétienté, baignée du sang réel du Christ, la Sainte Tunique. Ces soirées sont nées après le succès rencontré par l'ostension en 2016 de la Sainte Tunique habituellement maintenue pliée. En 15 jours, 220 000 personnes ont fait le déplacement. Les veillées Eleison ont alors été inaugurées au rythme de 4 par an. Leur nom signifie en grec « prends pitié ». Cette invocation, souvent adressée au Christ dans les évangiles, renferme l'aveu des misères humaines et la confiance en Dieu. Ces veillées permettent de s'approcher du mystère de la passion et de déposer le fardeau de ceux qui souffrent. Elle attire un public varié venu de toute l'Île-de-France. Nous croyons que la puissance de Dieu doit être invoquée pour faire face à l'action des forces occultes et mauvaises, déclare le recteur. C'est la foi de toute l'Église. Nous voudrions d'ailleurs que beaucoup de prêtres viennent aux veillées Eleison pour confesser d'abord, mais aussi pour découvrir que la prière de libération est à la fois une possibilité pour eux tous, qui fait partie de leur ministère, et une nécessité profonde pour beaucoup de brebis dans leur troupeau. J'enchaîne maintenant l'article, toujours dans Prier Magazine, sur la prière de délivrance. Donc, nous venons de le voir avec les veillées Eleison, des personnes se sentent oppressées et bloquées dans leur vie. Nous allons maintenant, avec cet article, discerner si des liens néfastes ont été contractés. Cette forme de prière peut être, dans ce cas, une voie, bien évidemment, de libération. C'est devenu un rendez-vous dans certains diocèses. Une fois par an, l'évêque préside une grande prière de guérison et de délivrance qui attire des centaines de personnes le temps d'un après-midi. On voit bien ce à quoi peuvent correspondre les prières de guérison auxquelles le magazine a consacré même un hors-série. Mais qu'est-ce que la prière de délivrance qui se pratique lors de ces temps collectifs ? Alors, la première caractéristique, ce sont d'abord des liens à rompre. Le mot « délivrance » évoque une liberté retrouvée après une période de captivité, comme le remarque le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence des évêques de France. Le mal peut engendrer une forme d'enfermement intérieur. On peut se sentir comme entravé par des liens invisibles. Cela peut être parce que nous avons contracté une habitude si forte que quelque chose en nous est comme coincé, ou alors une blessure psychologique s'est comme gangrénée. Il en résulte une sensation d'impuissance, une impression de tourner en rond, de se trouver dans une ornière à cause de situations insatisfaisantes qui se répètent malgré de constants efforts. Il y a donc ensuite, comme caractéristique à discerner, le désir de liberté. La première étape est de prendre le temps de nommer ce qui fait souffrir et empêche de vivre librement, et de tenter d'identifier ce qui, dans notre histoire, a pu en être l'origine. Il s'agit en particulier de reconnaître quelle prise nous avons pu laisser au mal. Le père Cario nous dit encore « L'existence de liens spirituels découle le plus souvent de situations dans lesquelles la liberté des personnes a été engagée au départ. » Justement, la liberté ayant fait ce choix peut donc en faire un autre. Nous pouvons avoir été d'abord victimes, et le mal a profité de nos blessures pour nous éloigner de Dieu. Mais nous pouvons aussi avoir été complices de l'adversaire en posant des actes ou des paroles mauvaises dont nous n'avons jamais demandé l'absolution sacramentelle. Pour certains, cette démarche intervient au terme d'un itinéraire. Ils ont identifié le lieu à évangéliser, mais ils sentent qu'il leur manque quelque chose, une aide extérieure. Il faut ensuite la fameuse aide au discernement. Le discernement peut se vivre dans la prière ou prendre la forme d'une conversation spirituelle. Lors d'un premier contact téléphonique, la personne demandeuse est invitée à consulter une documentation détaillée à propos des prières de délivrance pour bien comprendre le sens de la démarche, nous détaille le père Jean-Baptiste Hédard de la communauté de l'Emmanuel, qui accueille, avec l'aide d'une équipe de 7 laïcs, les personnes qui le désirent. Ensuite, nous la recevons à plusieurs pour un échange assez long. Celui-ci lui permet de formuler ce qu'elle désire que le Seigneur accomplisse pour elle. Quelques semaines plus tard, si la personne le souhaite, elle revient et nous vivons avec elle une prière pour sa délivrance. Identifier ce par quoi le mal a prise permet de formuler une renonciation. Nous utilisons en fait la formule baptismale de la nuit pascale. Rejetez-vous le mal et ce qui y conduit. Je le rejette, mais adapté à la vie de chacun. Il faut ensuite faire une demande confiante. Oui, la prière de délivrance elle-même peut prendre différentes formes. Il s'agit de collaborer avec la liberté de la personne. Comme si vous tendiez la main à quelqu'un qui est dans un trou pour l'aider à sortir. Dans d'autres formes de prière, notamment celles animées de longue date par des mouvements charismatiques, comme le chemin neuf et sa mission silhouée, une parole extérieure, dite dans la communauté ecclésiale par un prêtre ou par un simple baptisé, formée à cet effet, vient accompagner l'acte de renonciation posé par celui pour qui l'on prie. Et il s'agit enfin d'éviter les écueils. Ces prières s'appuient sur la foi de l'Église. Il est important de s'assurer qu'elles sont pratiquées en lien avec la communauté ecclésiale. Un danger d'emprise pourrait naître d'une pratique solitaire. C'est pourquoi il faut veiller à prier en binôme ou à plusieurs. Il faut également que la relation entre le priant et la personne ne s'installe pas dans la durée et éviter que ce soit l'accompagnateur spirituel qui en soit l'acteur. Après avoir renoncé aux conduites ou aux mensonges qui jusque-là avaient prise sur elle, la personne demandeuse est invitée à poursuivre son chemin de foi dans sa communauté ecclésiale afin d'enraciner le choix posé et d'en recueillir tous les fruits de liberté, de paix et de joie. C'était l'article d'aide au discernement sur la prière de délivrance. Nous allons maintenant faire la connaissance de l'Ukrainien Miroslav Marinovitch, donc, qui a rencontré Dieu en 1977 dans une prison du KGB. Ce dissident du régime soviétique fortifia sa foi durant 11 années de captivité et d'exil. L'article figure toujours dans Prier Magazine numéro 445. Le jeune Miroslav Marinovitch croupit dans sa cellule de la prison du KGB de Lviv en Ukraine depuis 6 mois. Le régime soviétique n'a pas apprécié sa participation à la création du groupe Helsinki ukrainien pour promouvoir et surveiller la mise en œuvre des accords d'Helsinki sur les droits de l'homme. L'officier qui l'interroge à l'été 1977 lui demande s'il a des convictions religieuses. Miroslav lui répond que, sans être athée militant, il n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Et voici que peu après, il est visité dans sa cellule par une vision, un globe terrestre couvert d'humains qui courent en tous sens, puis un visage qui le recouvre, celui du Christ, vers qui tous se mettent à converger, un flash lumineux. Et il s'évanouit. Il reste 3 jours dans un état second. Quand il en sort enfin, c'est pour prendre conscience qu'il est devenu croyant et que la prière fuse en lui. Il nous dit « Ma foi n'est pas venue comme résultat d'un sentiment d'impuissance d'un prisonnier sans autre espoir que Dieu face à la machine sans foi ni loi du KGB, mais de l'évidence de la présence de Dieu. » Miroslav est jugé au bout d'un an de captivité. Reconnu coupable de crimes spécialement dangereux contre l'État, il reçoit la peine maximale, 7 ans de camp à régime sévère et 5 de relégation dans l'Oural puis au Kazakhstan. Il est mis dans une cage et transporté au camp Perm 36, où sont enfermés les dissidents les plus connus. Il reçoit juste assez de nourriture pour ne pas mourir tout en restant affamé. Un responsable de camp sadique l'accable de ses violences. C'est le même qui oblige un autre détenu à devenir mouchard pour que ses 2 petites filles ne soient pas envoyées dans un orphelinat pour jeunes délinquants. Miroslav se bat pour que la dignité des détenus soit respectée, alternant mémorandum au gouvernement soviétique et grève de la faim. Mais il n'obtiendra jamais rien de plus que de nombreux séjours en cellule d'isolement par moins 30 degrés en hiver. Perm 36 puis la steppe kazakh sont cependant des lieux de vie chrétienne. Bible, littérature religieuse et vie sacramentelle sont interdites. Mais Miroslav a reçu, inséré dans une lettre, le texte des béatitudes. Ce sera la charte des détenus qui se convertissent. Miroslav rédige des méditations sur la vie avec le Christ sur des feuilles de papier à cigarette. Il dira plus tard que les croyants du goulag étaient plus libres que ceux de l'Occident, qu'il découvre après 1989, car ils mettaient en cohérence pensée et acte. Le camp est aussi un lieu d'œcuménisme. Miroslav, grec catholique, d'autres catholiques, des orthodoxes et des protestants, prient ensemble un jour de Pâques. Ils sont tous sévèrement châtiés. Il raconte cet épisode dans une lettre qu'il réussit à faire parvenir à Jean-Paul II. Ce dernier leur fait savoir discrètement en retour qu'il prie pour eux. Aujourd'hui, il est vice-recteur de l'Université catholique d'Ukraine et il appelle à reconstruire son pays dans la vérité, la réconciliation et la sobriété. C'était la présentation de l'Ukrainien Miroslav Marinovitch, donc, qui a rencontré Dieu en 1977 dans une prison du KGB. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous lire d'abord un petit extrait du dernier livre de Bérengère de Charentenay et Mathilde Robien paru aux éditions MAM, « Se pardonner, chemin de réconciliation pour les couples ». L'extrait suivant évoque différentes blessures donc, qui peuvent fragiliser le couple. D'abord, les blessures de l'enfance. Pour se construire, un enfant a besoin d'amour, de sécurité, de soins, de repères, d'attachement avec une figure qui lui est familière. S'il est carencé en amour, il est marqué par des blessures qui peuvent rejaillir des années plus tard, et notamment dans sa vie affective. L'amour blessé provoque une souffrance, parfois déjà vécue par le passé. Il est alors fréquent de vouloir se protéger de cette souffrance en recherchant activement à combler un manque, en instaurant de la distance avec des êtres ou des situations qui nous rendent vulnérables, ou encore en mettant en place un système de contrôle permanent afin de ne pas être pris au dépourvu. Autant d'attitudes qui viennent déséquilibrer une relation amoureuse. Il y a ensuite la blessure de rejet. Vulgarisée par le livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », la blessure de rejet est relative au sentiment d'avoir été repoussé et non désiré par l'autre. Très profonde, la blessure de rejet se met en place très tôt dans la vie de l'enfant. Elle touche au droit d'exister. Il y a ensuite la blessure d'abandon, liée au manque d'une figure attachante et sécurisante. Elle peut être présente chez des enfants qui ont dû grandir seuls ou tout simplement chez ceux qui n'ont pas trouvé l'écoute et l'accompagnement dont ils avaient besoin à un moment donné. Il y a aussi la blessure d'injustice, appelée aussi syndrome de Caliméro, correspondant à un mal-être permanent, ponctué de plaintes répétées et un sentiment constant d'inégalité. La personne qui en souffre ne se sent ni entendue ni comprise. Et éventuellement, les blessures liées à la sexualité. D'autres types de blessures marquent profondément et peuvent avoir des répercussions sur la vie de couple si elles ne sont pas prises en considération. Il s'agit des blessures liées à la sexualité. Cela peut être une parole blessante, entendue petit, un geste traumatisant subi enfant ou adolescent et qui perturbe l'estime de soi, la confiance en soi et la vie affective adulte. Oser en parler. Libérer sa parole, même des années plus tard, auprès de professionnels ou de tiers de confiance, constitue un premier pas pour comprendre qu'il n'y a rien de honteux et que la responsabilité échoit à l'agresseur. Et enfin, appeler à faire du neuf. L'amour sans conflit est une douce illusion. Mais heureusement, les désaccords, les disputes, les crises sont loin d'être fatales au couple. Il y a même des conflits qui font grandir, des conflits qui portent du fruit. Cependant, trop souvent et pendant trop longtemps, les conjoints ruminent des regrets, des frustrations, des blessures, notamment celles que je viens de vous évoquer. La clé réside dans la grande majorité des situations, dans le dialogue et le pardon. Alors le pardon n'est pas une formule magique pour que tout redevienne comme avant. Après la crise, le couple est à l'épreuve de la réconciliation, une période pas toujours évidente durant laquelle les conjoints se retrouvent et surtout se redécouvrent. Ils ont en commun ce désir de préserver leur couple et savent qu'ils sont appelés à faire du neuf pour ne pas retomber dans les mêmes pièges que par leur passé. Faire du neuf, c'est modifier son comportement, aller vers plus de bienveillance, plus de tendresse, plus de complicité. C'est trouver un nouvel équilibre où chaque conjoint trouve son compte, sa place. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais accepter, accueillir l'autre avec ses faiblesses et ses fragilités. Pardonner engage à ne pas réduire l'autre à ses actes, aussi blessant soit-il, mais à voir en lui une personne au-delà de ses actes. Pardonner, c'est continuer à aimer l'autre, envers et contre tout. Et de cet amour inconditionnel jaillit quelque chose de nouveau. Puisse ce livre aider les couples à se pardonner mutuellement, régulièrement, obstinément et librement. Il s'agit donc du livre « Se pardonner, chemin de réconciliation pour les couples » de Bérengère de Charentenay et Mathilde Robien, paru aux éditions MAM. Je termine avec un autre livre sur la question de la fin de vie, donc à savoir « La fin de vie apaisée, la sédation profonde et continue en question » du docteur Alix Debonnière, paru aux éditions Teki. Je vous lis un très très court extrait du livre dont le chapitre s'intitule « La famille face à la fin de vie ». Toutes ces situations mettent en évidence le rôle essentiel de l'entourage pour maintenir le désir de vivre des patients en fin de vie. La très grande majorité des familles le comprennent intuitivement et la demande d'une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès par un patient entouré et aimé, peut être un choc pour les siens. Cette demande se comprend plus facilement lorsque le patient est seul et que sa disparition n'atteindra personne, hormis les soignants. Mais lorsqu'une mère fait cette demande, la première réaction de ses enfants est un refus, suivi ensuite d'une résignation ou d'un respect de la volonté de la malade plus qu'une véritable acceptation. Chez les personnes âgées, la volonté de ne pas peser sur leurs proches peut amener à une demande de sédation. Une patiente réclamait ainsi l'euthanasie, en m'expliquant que depuis sa maladie, elle embêtait ses enfants. Qui pourrait leur en vouloir dans une société où la vieillesse, la maladie et la vulnérabilité sont des sujets tabous ? L'anxiété, la sous-estimation des ressources internes de leurs enfants, la représentation d'une fin de vie épuisante pour eux, l'image qu'ils pensent renvoyer à leur entourage aboutissent à faire taire leur désir de vivre et un effacement de soi, comme un retrait anticipé de la vie. Alors que les mêmes proches interrogés sont dans un souhait contraire. Ces derniers moments, au lieu de leur peser, sont des occasions ultimes pour exprimer leur amour et profiter de la présence de l'être aimé. À l'inverse, pour d'autres proches, la souffrance d'assister à la fin de vie d'un être aimé est telle qu'elle les amène à réclamer une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, alors même que le patient n'en a rien dit. L'essentiel est alors de se recentrer sur le patient, qui reste le sujet principal de la prise en charge, même si celle-ci inclut aussi ses proches. En effet, il arrive que ceux-ci, se croyant investis d'une mission, prennent la place du malade. Lorsqu'ils ont été désignés comme personnes de confiance, ils se prévalent de faire appliquer les directives anticipées, alors même que le patient est encore en état de communiquer et d'exprimer sa volonté. Alors que la loi prévoit un droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès en cas de souffrance réfractaire, il convient de dissocier la part qui revient au malade et celle de son entourage. La souffrance réfractaire de l'entourage n'est pas un motif légitime de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès du patient. Elle doit par contre être accompagnée par l'équipe et la psychologue, voire dirigée vers des spécialistes externes si cela ne suffit pas.
Chers auditeurs, c'était notre émission, la revue de presse de Claire Boubourg. Vous pouvez retrouver cette émission au podcast sur notre site internet radiomaria.fr.